RFI.
Spotkania europejskie.
Kruzymią tutaj Europę.
Rozkrucia Europej.
Stavrodromit z Europis.
Treffpunkt Europa.
The hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquel.
Guillaume Meunier.
Bonjour, bienvenue au Carrefour de l'Europe, bien en direct du Forum de la paix de Paris. En 1918, les poilus ont cru à tort en la guerre des guerres, la dernière des guerres. Mais les traités de paix laborieusement négociés, notamment le traité de Versailles, portaient-ils en eux les germes de la prochaine guerre? À l'inverse, depuis 1945, grâce à la réconciliation franco-allemande et à la construction européenne, nous vivons en Europe avec l'évidence d'une paix éternelle. 73 ans de paix. Jamais le continent européen n'a connu dans son histoire une période de quiétude aussi longue, ce qui renforce l'idée, notamment auprès des jeunes générations, de l'impossibilité d'une guerre. Mais les nationalismes, les pouvoirs autoritaires, voire les nouvelles menaces terroristes ou de cybersécurité qui prospèrent, pourraient remettre en cause nos certitudes. Bienvenue pour ce Carrefour de l'Europe que nous avons intitulé « De la der des der à l'évidence de la paix ». Je vous présente les invités qui nous ont rejoints à la grande halle de la Villette, là où se déroule le Forum de la paix de Paris. Bonjour Élie Julien.
Bonjour.
Vous êtes enseignante-chercheuse à Sciences Po Lille. Ernst Wenrich, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien-chercheur à Sorbonne Université. Bonjour Christian Lequen.
Bonjour.
Vous êtes professeur à Sciences Po Paris. Votre dernier livre, Ethnographie du Quai d'Orsay, les pratiques des diplomates français, est paru aux éditions du CNRS. Alors ce matin, très solennellement, très exactement à 11h, 100 ans, jour pour jour, heure pour heure, une soixantaine de chefs d'État et de gouvernement ont salué à la fin de la Première Guerre mondiale, au-delà de l'émotion, de la solennité du moment. S'il faut rappeler un chiffre, Élie Julien, c'est celui des morts, 18 millions de morts, à peu près répartis également entre les civils et les militaires.
Oui, ça peut nous donner une première idée de l'ampleur qu'a pris ce premier conflit mondial. Une guerre qui au départ était européenne, qui est devenue progressivement mondiale, une guerre industrielle avec cette mort de masse. Et cette mort de masse, elle en dit long aussi sur les deuils qui se prolongent, qui se prolongent dans les familles jusqu'à aujourd'hui. Alors si on évoque seulement la France, on est à 1,4 million de morts, ce qui est absolument colossal.
Et si on évoque le nombre de morts allemands, c'est à peu près équivalent ?
Presque 2 millions.
Presque 2 millions, un peu plus. Alors, si tous les soldats, tous les poilus ont applaudi la fin de la guerre comme une délivrance, évidemment l'armistice n'a pas été célébré de la même manière de chaque côté du Rhin. En France, ce 11 novembre, c'est une explosion de joie, Élie Julien.
C'est avant tout le soulagement. Avant tout le soulagement. Alors c'est d'autant plus un soulagement qu'il est accompagné d'une victoire, évidemment. Mais derrière, il y a aussi quand même le deuil qui est extrêmement présent. Donc on a ces scènes de liesse qui sont tout à fait réelles. On les connaît sur les boulevards parisiens, notamment, lieu de rassemblement, lieu d'information. Mais c'est pas forcément un sentiment qui va durer cette joie sans limite.
Les lendemains seront difficiles par définition.
C'est-à-dire que c'est l'heure du bilan et le bilan il est humain. On vient d'évoquer le nombre de morts. C'est aussi un épuisement beaucoup plus général des sociétés, des économies. C'est aussi toute une démobilisation qui doit se mettre en place pour essayer de réinventer la paix.
Alors Anne Wernich, évidemment en Allemagne, délivrance de la part des soldats, des poilus allemands, qu'on n'appelle pas les poilus, il y a un nom précis, qu'on les appelle comment les poilus en Allemagne.
Enfin, à l'époque on les appelait les vers de gris, les Feldgrauer. Et là effectivement on peut souligner qu'à bien des égards il y a un soulagement collectif qui peut être comparé effectivement à ce que ressentent les soldats français de l'autre côté du Rhin, même si effectivement le vécu, l'expérience allemande de cette sortie de guerre, de cet armistice est complètement différente, évidemment d'une part du fait qu'il s'agit quand même d'une défaite militaire, et d'autre part aussi du fait que qu'entre-temps, il y a eu la révolution, la révolution de novembre, donc le basculement d'un régime monarchique dans la République de Weimar.
Qui s'installe
le 9 novembre, donc deux jours seulement avant la signature de l'armistice, et qui fait qu'effectivement ce soulagement que peuvent ressentir les Allemands, qui ont justement en fait la révolution pour qu'il y ait un armistice, pour qu'on puisse sortir de ce cauchemar de la guerre, ce soulagement il est quand même teinté d'incertitude, d'inquiétude et aussi de pour une certaine partie, en tous les cas, de l'opinion publique, de regret, hein, évidemment, d'avoir perdu cette guerre.
Alors, quand on parcourt la France, dans le moindre village, il y a un monument aux morts avec la liste des jeunes qui ont perdu la vie sur le front. En Allemagne, il n'y a pas le moindre monument du souvenir de cette Première Guerre mondiale. Élise Julien dit non de la tête, mais néanmoins, il n'y en a pas beaucoup.
Il y en a beaucoup, beaucoup, tout à fait. Alors, effectivement,
mais pourquoi les voit-on pas ?
Alors, ils ont été très étudiés en France. Donc ça explique aussi cette connaissance, hein, depuis les années 70, depuis les travaux d'Antoine Pro, avec toute une typologie de monuments plus ou moins patriotiques, plus ou moins funèbres, plus ou moins civiques. Et la particularité sans doute de la France, c'est que ces monuments sont élaborés très rapidement à l'issue de la guerre. C'est-à-dire qu'en 1922, on a déjà la moitié des communes qui ont leurs monuments aux morts. À ces monuments de communes, il faut ajouter en outre ceux des écoles, ceux des administrations, ceux des églises, ceux des associations, etc. Donc on est à bien plus de 36 000. Il se trouve qu'en Allemagne, on a un phénomène similaire qui se greffe en partie sur des monuments plus anciens qui sont ceux de la guerre de 1870. Hein, donc c'est une manière de s'insérer dans une victoire antérieure. Les monuments allemands sont pour une part érigés très rapidement, y compris dans le cadre des communes, alors avec la différence qu'il n'y a pas de séparation de l'église et de l'État en Allemagne, donc souvent le monument de la paroisse est aussi celui du village. Donc un certain nombre de monuments très sobres, qui ne prennent pas forcément partie sur le sens de la guerre, sont érigés dès la sortie de la guerre, vraiment au tout début des années 20, voire dès 1918. Et puis ce qui est remarquable en Allemagne, c'est qu'on a une deuxième vague de monuments aux morts plus tardive, plutôt à la fin des années 20, une fois la phase d'hyperinflation passée, quand on peut à nouveau organiser des souscriptions pour l'érection de ces monuments, et qui sont des monuments beaucoup plus revanchards, souvent plus élaborés et qui correspondent à des milieux nationalistes. Voilà. Donc avec là un sens attribué à la guerre beaucoup plus marqué.
Alors néanmoins, le souvenir de cette guerre, il est plus fort en France qu'en Allemagne. D'abord parce que c'était une victoire pour la France, douloureuse mais une victoire. Et tous les combats se sont déroulés sur le sol français, Arndt Benrich.
Oui, bien sûr. Enfin, après, j'ajouterais bien sûr aussi le fait que la Seconde Guerre mondiale, hein, et toute cette mémoire de la Shoah, hein, de la barbarie nazie, hein, qui est vraiment au cœur de la politique mémorielle allemande, enfin en tous les cas de la République fédérale, a complètement recouvert, hein, cette mémoire de la Première Guerre mondiale, qui est quand même une mémoire combattante. Hein, ce qu'il faut comprendre là, vraiment, que contrairement à la France, ce lien affectif, hein, ce sentiment de continuité, hein, qui peut exister donc entre les poilus et les Français d'aujourd'hui, a été rompu en quelque sorte par l'expérience de la Seconde Guerre mondiale, et surtout par la prise de conscience, hein, de la singularité des crimes nazis, hein, qui a eu pour conséquence une démilitarisation complète, hein, du culte de mémoire allemand.
Dans les livres d'histoire, est-ce que aujourd'hui, les petits Allemands et les petits Français apprennent le même récit de cette Première Guerre mondiale? Qui veut répondre? Allez, on commence par Élise Julien.
Juste une remarque pour dire qu'il existe un manuel franco-allemand, hein, depuis 10 ans bientôt.
Très peu utilisé.
Très peu utilisé, mais de manière assez symptomatique, le chapitre sur la Première Guerre mondiale a été très difficile à écrire. En commun, parce que justement les priorités n'étaient pas les mêmes. Donc ça montre là aussi des décalages, hein, qui perdurent jusqu'à aujourd'hui.
Alors qu'apprennent les petits Français, Élise Julien, puis qu'apprennent les petits Allemands, Arndt Benrich, juste après?
Alors on a eu une évolution de la manière dont est présentée l'histoire de la guerre, effectivement, dans les manuels scolaires. Aujourd'hui, on est sur un apprentissage qui est extrêmement rapide, hein. C'est 3 heures annuelles, hein. Alors la guerre est enseignée en CM2, en 3e et en 1ère, mais de façon extrêmement rapide. On insiste beaucoup, ça correspond à une évolution de l'historiographie, sur le vécu des soldats. Sur le vécu dans la tranchée et finalement moins sur les motivations de ces soldats que sur ce qu'ils ont subi, et donc dans une lecture assez victimaire de la guerre.
Est-ce que ça veut dire qu'on privilégie l'émotion ?
C'est probable. Alors ça renvoie à une sorte forme d'ambivalence ou de paradoxe qui concerne la Première Guerre mondiale, c'est que d'une part il y a une forme d'incompréhension un siècle après sur ce qu'a été cette guerre, donc une sorte de distance, d'étrangeté avec cette guerre. On a du mal à en cerner les enjeux, on a du mal à concevoir que des hommes aient pu se battre aussi longtemps dans des conditions aussi terribles. Enfin voilà, on a du mal à concevoir même que les populations aient tenu 4 ans. Et puis l'autre aspect, c'est que cette guerre, elle nous est quand même assez proche par les mémoires familiales, par justement l'émotion que vous évoquiez, et elle reste utilisée, on le voit très bien dans les commémorations aujourd'hui, comme une ressource, et comme une ressource y compris pour des aspects très positifs qui peuvent concerner à la fois la cohésion nationale et le courage, qui peuvent concerner la paix, le message de paix, etc. Donc voilà, on est sur ces deux aspects, et justement les enseignants cherchent à accrocher si je peux me permettre, les élèves par le biais de l'émotion, des objets, des trajectoires individuelles, des photographies, etc.
Arne Fenrich, les petits aimants, qu'est-ce qu'ils apprennent ?
Enfin, répondre à cette question est plus difficile qu'on ne s'imagine, puisqu'effectivement, il ne faut pas oublier que l'Allemagne est un système fédéral.
Oui. Hein,
donc justement,
l'éducation
relève effectivement des Länder. Hein, donc il n'y a pas de, si vous voulez, de...
Il y a 16 programmes
nationaux. Exactement. Donc là, il faudrait les prendre un par un. Évidemment, on n'a pas le temps de le faire et on ne va pas le faire. Donc de manière générale, on peut dire que le...
Ce qui veut dire qu'on n'apprend pas forcément la même chose en Sarthe, qu'il y a une frontière commune avec la France. Et puis...
Même s'il y a quand même des convergences, hein, oui, bien sûr. Donc, et justement, sur cette question de la Première Guerre mondiale, le récit allemand, hein, si je peux me permettre, il n'est pas du tout comparable donc, à ce qu'on peut trouver en France. Donc cet accent mis sur l'expérience combattante. Hein, là, vraiment, les aspects qui sont mis en avant, c'est d'une part la question de la responsabilité de la guerre, hein, donc l'entrée en guerre, qui prend quand même une place importante. Et ensuite, la fin de la guerre et le sortir de la guerre, hein, donc le traité de Versailles, avec évidemment en point de fuite, en ligne de mire, hein, l'explication de 1933, hein, l'explication donc de la montée en puissance du nazisme. Ah, donc moi, si vous voulez, les Allemands mettent en parenthèse justement l'expérience combattante et les quatre ans de guerre pour s'intéresser à cette question donc de la culpabilité allemande dans tout ça,
et
ensuite en fait à la place que peut avoir le système de Versailles dans l'explication du nazisme.
Alors il y a eu évidemment l'armistice qu'on célèbre aujourd'hui, qu'on commémore aujourd'hui, et puis la paix qui s'est construite petit à petit au cours de négociations infinies, laborieuses, qui ont duré 5 ans, c'est-à-dire quand même une année de plus que la guerre, et au total 16 traités, si je ne dis pas de bêtises, qu'on appelait, je crois, les traités de la banlieue parisienne, c'est ça, Christian Lecal, on les appelle les traités de la banlieue parisienne, les traités de Versailles, Saint-Germain, Trianon,
Sèvres, Trianon, etc. Oui.
Alors, les deux plus connus sont évidemment le traité de Versailles et celui de Trianon. Versailles a scellé, elle a destiné le destin de l'Allemagne, et Trianon, celui de l'Autriche-Hongrie, car très rapidement, ou en tout cas à partir des années 1920, l'Europe qui se construit ne ressemble en rien à celle qui a disparu avec cette guerre de 1914-1918. Il y avait trois empires, l'Empire allemand, l'Empire autrichien, d'Autriche-Hongrie, l'Empire ottoman, évidemment l'Empire russe, mais c'est une autre histoire. Et la carte de l'Europe se redessine en 1923. Elle est presque achevée. Et il y a de nombreux nouveaux États, Christian Lecal.
Oui, absolument. C'est l'émergence d'États-nations qui prennent la suite des empires et des dissolutions d'empires. Et nous aurons la même chose, bien entendu, en 1989, lorsque l'Union soviétique et la Yougoslavie disparaissent. Là aussi, nous avons à nouveau naissance d'un certain nombre d'États-nations sur les poussières des empires.
Alors, Elie Julien, vous voulez réagir ?
Oui, on a la création de certains États, hein, qui se fondent sur l'idée du droit des peuples, etc. Par exemple, la Tchécoslovaquie. On a aussi la renaissance d'États qui n'existaient plus en tant qu'État, je pense en particulier à la Pologne, et ça a des incidences, puisqu'actuellement ce qui est commémoré, c'est la renaissance de la Pologne, et dans ce cadre, les commémorations polonaises insistent sur l'aspect positif de la guerre. Ça n'a pas du tout été une catastrophe, puisqu'au contraire, ça a permis la renaissance nationale. Il faut rappeler que la Pologne était écartelée entre trois empires différents. Et puis à l'inverse, il va y avoir des pays frustrés. On a évoqué le traité de Trianon. Pour la Hongrie, c'est absolument dramatique, et on en ressent encore les conséquences.
Alors on va revenir un mot sur les traités de Trianon qui a assez le sort de l'Autriche-Hongrie. Anne Vendrich, je voulais réagir sur ce
juste pour aller dans le sens de ce que vient de dire Élise. Effectivement, c'est pas un hasard qu'aujourd'hui, hein, à l'Arc de Triomphe, la Pologne et aussi la Hongrie n'étaient finalement pas présentes, hein, puisqu'effectivement là il y a une mémoire qui s'exprime dans un cadre national très 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 différent, hein, qui est assez loin en fait du récit franco-allemand, du récit occidental.
Alors très présent ce matin, trois pays qui sont représentés par leur chef d'État, les trois pays baltes qui naissent à partir de 1918, Christian Lecal.
Oui, absolument. Les pays baltes naissent à partir de ce moment-là, et ensuite, bien sûr, perdent à nouveau leur indépendance
très rapidement,
pour devenir soviétiques, et retrouvent cette cette liberté, cette souveraineté, simplement après 1989, c'est-à-dire après la dissolution de l'Union soviétique.
Quelle a été la philosophie générale de ce redécoupage de l'Europe? Qu'est-ce qu'on a essayé de privilégier, Élie Julien?
Alors la figure tutélaire, bien sûr, de ces traités de paix, c'est Wilson. Hein, Wilson qui, dès la guerre...
Le président américain.
Qui, dès la guerre... essaye de promouvoir une conception nouvelle des relations internationales et également qui cherche à mettre fin à toute guerre en privilégiant un redécoupage fondé sur le droit des peuples, enfin une gestion de la paix fondée sur le droit des peuples. Alors il n'y parvient pas pendant la guerre, hein, obtenir une paix sans victoire, une paix négociée, etc. Donc il attend la fin du conflit. Ce qu'il faut avoir bien en tête, c'est que tous ces traités sont négociés entre vainqueurs, pas avec les vaincus. Et que finalement, entre vainqueurs, c'est déjà très compliqué. Les choses prennent des mois, puisque les ambitions se heurtent. Hein,
les Français ne veulent pas la même chose que les Anglais,
par exemple. Pas du tout.
Arne Svennery, je voulais réagir, et Christian Le Cannes aussi.
Oui, justement, donc c'est l'idéalisme wilsonien hein, qui est vraiment au cœur de la conférence de la paix. En même temps, et ça c'est le deuxième élément qui est important, il y a aussi le principe de la viabilité. En fait, des nouvelles entités politiques en train de voir le jour, ce qui a pour conséquence, effectivement, que pour la question des minorités, parfois, il y a des arbitrages, effectivement, qui ne correspondent pas aux frontières ethnico-linguistiques. Voilà. D'ailleurs, ce qui est tout à fait explicable, parce que on a là un vrai mosaïque.
Est-ce qu'il faut privilégier les ethnies ou le citoyen? Ça a été un débat.
Oui, ça a été un débat qui a été tranché en faveur des pays en Europe centrale et orientale qui avaient une bonne relation, évidemment, avec les pays vainqueurs, donc comme avec la Tchécoslovaquie et la Pologne.
Christian Lequel.
Dans les 14 points du président Wilson, il y a effectivement l'émergence de l'idée de la démocratie libérale, de la diplomatie libérale, c'est-à-dire cette diplomatie qui ne doit plus être une diplomatie du secret, mais qui doit être une diplomatie de la coopération ouverte. D'ailleurs, il y a un des points qui insiste précisément là-dessus. Alors, c'est assez vite, bien sûr, contredit par les événements, puisque le pacte Molotov-Ribbentrop, par exemple, va tout à fait à l'encontre de cette idée. Mais en tout cas, ça marque quand même une nouvelle conception de la diplomatie qui avait déjà émergé dans les milieux intellectuels depuis les Lumières, depuis le 18e, mais qui là, pour la première fois, trouve une voie officielle dans le président américain. Et bien sûr, tous ceux qui ont toujours considéré que la diplomatie devait être au contraire un équilibre de pouvoir, un rapport de force, ont considéré que Wilson était un idéaliste gentil, mais pas réaliste.
Un peu naïf. Voilà. Il faut dire, en 1914, lorsque le conflit démarre, il y a des empires, il y a des pouvoirs autoritaires, il y a des on dirait aujourd'hui des dictateurs, on emploierait ce mot, même si c'était des empereurs. Et au lendemain de cette guerre, il y a l'émergence de démocratie libérale. L'émergence, comme l'avait expliqué Christian Le Cannes, ça a marché plus ou moins bien.
Oui, elle ne perdure pas très longtemps, et il s'avère que les signataires de la SDN, du pacte de la SDN, ne sont pas forcément les démocraties libérales dont avait rêvé Wilson. Wilson qui, par ailleurs, se heurte bel et bien aux réalités de terrain, puisque effectivement cette idée de sortir de la diplomatie du secret est absolument essentielle. Or, dans la réalité, Wilson se trouve à devoir valider notamment le traité de Londres de février 1915, qui faisait des promesses à l'Italie, hein, qui a permis l'entrée en guerre de l'Italie, de même qu'il doit reconnaître les accords Sykes-Picot qui datent là de mai 1916 et qui concernent le partage du Moyen-Orient. Donc on voit un peu les tiraillements entre les principes affichés qui sont idéalistes mais auxquels Wilson tient, et puis la réalité avec laquelle il doit composer.
Il y a eu notamment une guéguerre franco-britannique pour savoir comment influencer la marche du monde au lendemain de ce premier conflit mondial, Élie Julien.
Oui, d'autant que les ambitions britanniques et les ambitions françaises ne sont pas du tout les mêmes. Hein. La France, elle a pour souci principal de préserver sa frontière nord-est d'une nouvelle attaque allemande. Donc Foch, son idée fixe, hein, c'est de fragmenter. Voilà, c'est ça, c'est de démembrer en partie le Reich et notamment la Rhénanie, alors que le Royaume-Uni, au contraire, veut éviter l'hégémonie française sur le continent européen. Et dans ce cadre-là, Lloyd George, il voudrait plutôt améliorer la situation politique et économique de l'Allemagne.
On va faire une pause sur RFI, la radio de l'Europe et du monde, juste le temps de prendre connaissance des toutes dernières nouvelles de la planète et de se retrouver dans un instant au Forum de la paix pour Paris à la Villette. Tout de suite, direction les studios de Paris.
Spotkania europejskie.
Rozumiem tu Europę.
Rozkrucia Europej.
Stavrodromi tis Evropis.
Treffpunkt Europa.
The Hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquel.
Guillaume Meunier.
Rebonjour, Carrefour de l'Europe, deuxième partie, toujours en direct du Forum de la Paix de Paris. En 1918, les poilus ont cru à tort en la dernière des guerres, mais les traités de paix laborieusement négociés, notamment le traité de Versailles, portaient en eux les germes de la prochaine guerre. À l'inverse, depuis 1945, grâce à la réconciliation franco-allemande et à la construction européenne, nous vivons en Europe avec l'évidence d'une paix éternelle. 73 ans de paix, jamais le continent européen n'a connu dans son histoire une période de quiétude aussi longue, ce qui renforce auprès des jeunes générations de l'impossibilité d'une guerre. Mais les nationalismes, les pouvoirs autoritaires, voire les nouvelles menaces terroristes ou de cybersécurité qui prospèrent pourraient remettre en cause nos certitudes. Bienvenue donc pour la deuxième partie de ce Carrefour de l'Europe que nous avons intitulé de la der des der à l'évidence de la paix. Je vous représente les invités qui nous ont rejoints à la grande halle de la Villette, là où se déroule le Forum de la paix de Paris. Élise Julien, elle est enseignante chercheuse à Sciences Po Lille. Arndt Venrich, il est historien un chercheur à Sorbonne Université, et Christian Lequesne est professeur à Sciences Po Paris. Élise Julien, on a beaucoup accusé les traités, notamment le traité de Versailles, d'être un facteur qui a permis l'engrenage vers la Deuxième Guerre mondiale, en contribuant à la montée des fascismes, des pouvoirs autoritaires, l'ensemble bien sûr étant aggravé par la crise économique de 1929. Est-ce que c'est un débat qui agite encore les historiens? Est-ce que oui ou non ces traités ont facilité l'émergence de l'arrivée de la Deuxième Guerre mondiale?
Il est incontestable que ces traités ont eu des conséquences, et des conséquences lourdes, avec des pays plus ou moins frustrés, alors des pays satisfaits, mais des pays aussi frustrés, que l'ambition de réduire, hein, si ce n'est de supprimer les minorités nationales par un redécoupage des frontières, a eu des effets ambivalents. C'est-à-dire que avant la guerre, l'Allemagne comportait des minorités polonaises, et bien après la guerre, c'est la Pologne qui comporte des minorités allemandes. Et on sait que Hitler utilisera cet argument pour ses velléités impérialistes dans les années 30. Donc il est incontestable que les traités ont eu des conséquences, il ne s'agit pas de ça. En revanche, il faut se préserver, je pense, de tout déterminisme, parce qu'il y a tellement de facteurs qui ont permis et qui ont finalement conduit à la guerre qu'on ne peut pas les résoudre à un facteur diplomatique qui serait lié au traité. Hein, l'histoire, c'est toujours une ouverture des possibles. Et évidemment, nous, on connaît la suite. Alors, il est un peu facile de regarder ça avec des lunettes téléologiques.
Il est toujours plus facile de réécrire l'histoire, évidemment.
Voilà. Mais si on se replace dans les conditions de l'époque, l'entre-deux-guerres est aussi une période qui a vraiment connu des initiatives de paix très fortes et très importantes. Rien n'était joué.
Anne Fenrich, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Élie Julien? Si oui, ben on rajoute rien.
Hein. Ah ben tout à fait. Enfin, effectivement, s'il y a bien un renouvellement historiographique de cette question-là, dont les 20 dernières années, elle porte bien sur cette question de l'avenir, hein, qui est relativement ouvert, donc à ce moment 1918. Hein, les revendications révisionnistes de l'Allemagne, hein, vont être un élément extrêmement important pour la propagande nazie, enfin pour l'extrême droite, la droite de manière plus générale. Et même si dans le cas allemand, il y a quand même un consensus révisionniste qui est extrêmement important, qui va effectivement, dans le contexte de crise économique de 1929-1930, profiter, hein, à la montée en puissance du national-socialisme. Hein, mais faut pas y avoir effectivement un automatisme, hein, une linéarité simpliste. Il faut juste rappeler en fait qu'en 1928, hein, aux législatives du Reichstag, le NSDAP, hein, le parti nazi, il ne recueille que 2,5% des voix. Hein, donc encore tard dans les années 20, il s'agit en fait d'un parti, voilà, assez insignifiant.
C'est juste avant la crise de 29.
C'est juste avant la crise de 29, et ce ne sera donc après l'éclatement vraiment de la crise, de la montée du chômage de masse, etc., qu'à partir de 1930, le parti va vraiment connaître une percée électorale majeure.
Alors vivons-nous aujourd'hui dans une période qui rappelle celle des années 1930? Afin d'enrichir notre débat, nous allons faire un détour par la rédaction de Courrier International. Bonjour Sacha Mitchell. Les commémorations du centenaire de l'armistice de la guerre 14-18 ont connu leur apogée tout à l'heure, à un moment difficile pour l'Europe, avec la montée en puissance des pouvoirs nationalistes et populistes, au point qu'un éditorialiste du Times de Londres s'interroge : sommes-nous aujourd'hui dans une séquence qui ressemble à celle des années 30 ?
Oui, c'est ce que soutient ce journal britannique. Pour lui, jamais les règles du droit international n'ont été à ce point bafouées depuis les années 1930, l'ère des dictateurs, grands, petits et de pacotille. Pour preuve, The Times cite l'exemple de l'assassinat du journaliste saoudien Jamal Khashoggi à Istanbul début octobre. Il est désormais possible d'entrer dans un pays étranger et d'y avoir recours à la violence afin de venger un affront personnel, d'agir en toute impunité tout en exigeant le respect, constate le journal, et en faisant allusion ici au prince héritier d'Arabie Saoudite, MBS, Mohamed Ben Salman. En comparaison, en fait, le quotidien fait le parallèle avec le NKVD de Staline et ses irruptions nocturnes pour faire disparaître les opposants supposés. Et pour le journal, les similitudes ne s'arrêtent pas là. Aujourd'hui, comme les dictateurs des années 1930, les dirigeants comme Poutine, Erdogan ou encore Bolsonaro, récemment élu président au Brésil, se présentent en défenseurs du peuple contre l'injustice d'abord, et ensuite, ils comptent en partie sur la fidélité de l'appareil de sécurité. Le risque, c'est qu'ils trouvent des moyens, craint The Times, de radicaliser leur politique pour se maintenir au pouvoir.
Alors si ces dirigeants mènent ces politiques, il peut y avoir plusieurs explications, et peut-être aussi celle-ci, c'est que ces politiques répondent à des chocs émotionnels qu'ont connus ces pays.
Tout à fait, c'est ce que soutient le quotidien de Londres. Ça serait une réaction tardive à un traumatisme. Dans le cas de Poutine, c'est la tragédie nationale russe post-effondrement de l'URSS. Le sentiment dans la population que le pays a été bradé à des criminels qui ont dépouillé le peuple. En Chine, Xi Jinping a lui su exprimer la peur qui hante le régime depuis les révolutions de 89 en Europe de l'Est, à savoir que la République populaire de Chine connaisse le même sort que l'Union soviétique, justement. Et ça ne s'arrête pas à la politique intérieure et domestique. À l'extérieur aussi, si Poutine et Erdogan ne se font pas confiance, mais ils ont compris une chose, et ce, dès le début de la présidence de Trump et l'avènement de son America First, et c'est qu'en œuvrant de concert, ils pourraient accroître leur sphère d'intérêt au détriment de l'Amérique. Si les années 1930 ont connu une fin si tragique, conclut The Times, c'est en partie parce que deux hommes forts, Hitler et Staline, se sont entendus pour se partager l'Europe. Mais c'est aussi parce que les États-Unis se sont désintéressés de ce qui se passait de l'autre côté de l'Atlantique. Espérons aujourd'hui que nous en avons tiré la leçon.
Merci Sacha Mitchell, Courrier International, l'hebdo, courrierinternational.com, le site. L'éditorialiste du Times sort un peu du cadre européen qui nous est cher, mais de Trump à Poutine, d'Erdogan à Xi Jinping, Christian Lequen, il y a une tendance forte de pouvoir autoritaire ou tenter sur le repli. Ça se dessine un peu partout sur la planète, et évidemment en Europe aussi.
Alors, je voudrais d'abord dire que les pouvoirs autoritaires n'ont jamais disparu de la planète. Je dirais, il n'y a pas une renaissance subite depuis 10 ans. Si on prend la carte du monde et qu'on essaie de regarder le siècle qui nous sépare du début du 20e, il y a eu des expériences d'autoritarisme partout. Je trouve que c'est un peu tiré par les cheveux, si vous voulez.
Un peu exagéré,
voilà. Il n'y a rien de nouveau, vous savez, à enlever des opposants politiques. Dans les années 50, la Tchécoslovaquie communiste enlevait des opposants politiques en Autriche et les ramenait secrètement à Prague. Donc, non, je pense qu'il y a...
Et on a connu les pratiques bulgares, par exemple.
Voilà, en revanche, il y a deux choses. Il y a effectivement un affaiblissement de l'Occident actuellement et des... valeurs portées traditionnellement par l'Occident. Ça, c'est la première chose. Cet affaiblissement, d'ailleurs, est dû à des causes externes, qui est la montée d'autres puissances, mais aussi à des causes internes, en particulier le fait qu'il y ait le président Trump aux États-Unis. Et puis, deuxièmement, nous avons connu, là encore, c'est pas la première, il y en a eu de nombreux autres dans l'histoire, mais une phase de globalisation économique qui a un peu changé, si vous voulez, les structures sociales, et a créé une classe à la fois de personnes qui ont profité, mais aussi de personnes qui ont été les laissés pour compte. Et évidemment, ceux qui ont été les laissés pour compte sont d'excellents clients du nationalisme ou de ce que l'on appelle parfois le populisme.
Christian Lequen, à sa manière, Emmanuel Macron lui-même ne dit pas des choses si différentes de vous. C'était il y a quelques jours chez nos confrères d'Europe 1.
Le nationalisme remonte. Ce nationalisme qui demande quoi ? La fermeture des frontières, qui prône le rejet de l'autre, du pays voisin ou de celui qu'on appelle aujourd'hui le migrant. Quand je regarde aujourd'hui, ils jouent sur les peurs partout. Et ils sont là. Quand je regarde le monde où nous vivons, l'Europe est de plus en plus fracturée. Quand je regarde le monde où nous vivons, vous avez des puissances autoritaires qui réémergent et qui se réarment aux confins de l'Europe. Mmh. Nous sommes bousculés par les tentatives d'intrusion dans le cyberespace et l'intervention d'ailleurs dans notre vie démocratique de plusieurs. Nous devons nous protéger à l'égard de la Chine, de la Russie et même des États-Unis d'Amérique. Quand je vois le président Trump annoncer il y a quelques semaines le fait qu'il sorte d'un grand traité de désarmement qui avait été pris, je le rappelle, après la crise des euromissiles, au milieu des années 80, qui avait frappé l'Europe. Qui en est la victime principale? L'Europe et sa sécurité. Donc, non, je n'exagère en rien. Nous sommes dans une Europe qui, depuis 70 ans, vit une parenthèse de paix inédite, mais qui est aujourd'hui fracturée par la montée des nationalismes. Nous sommes dans un monde qui pensait voir la fin de l'histoire et où on voit le tragique réapparaître avec la montée des réarmements et des grandes puissances. Et donc, nous avons besoin d'une Europe plus forte. Moi, c'est le combat que je mène. Nous avons besoin de ne pas faire bégayer l'histoire et d'avoir une Europe qui protège.
En 1918, donc, les poilus ont cru au plus jamais ça, à la dère des dères, la dernière des guerres, mais leur rêve n'a duré que 20 ans. Aujourd'hui, 60, presque 75 ans de paix, 73 ans très exactement, et pour les jeunes générations, celles qui ont 20 ans aujourd'hui, la paix est devenue une évidence, mais ce n'est pas parce qu'on vit dans l'évidence de la paix que cette dernière est éternelle, Christian Lequen.
Alors, tout dépend d'abord où l'on vit. Si on vit en Croatie ou si on vit en Serbie, l'évidence de la paix, elle se pose en des termes
alors
tout à fait différents de l'Allemagne ou de la France.
C'est l'Union Européenne.
Voilà. La Croatie, c'est un pays membre de l'Union Européenne depuis 2013. Mais je pense que le récit sur la paix et la guerre n'a pas complètement disparu. Mais c'est vrai qu'en Europe de l'Ouest et en Europe centrale, chez les jeunes qui n'ont connu que la démocratie, c'est-à-dire qui sont nés après 1989 et qui ont quand même une trentaine d'années maintenant, le message de la réconciliation est un message qui est entendu d'une manière moins militante que chez les parents et les grands-parents. Mais je pense que c'est un message qu'il ne faut pas quand même abandonner parce que quand on s'interroge sur le récit du projet politique européen, et chaque projet politique a finalement besoin d'un récit, hein, il n'y en a pas beaucoup de récits. Et il y en a un, c'est la paix quand même. Et c'est la raison pour laquelle je crois qu'il faut le réactiver. Et la manière de le réactiver, c'est peut-être de comparer ce qui se passe en Europe à ce qui se passe dans bien d'autres endroits du système international.
Je m'adresse aux historiens, Élise Julien et Arne Wenger. Est-ce qu'aujourd'hui, une guerre en Europe vous paraît imaginable, vous qui avez le long terme et l'histoire pour vous?
Hélas, l'histoire a montré qu'elle a toujours plus d'imagination que l'historien. Hein, donc, de ce point de vue, je pense qu'on peut absolument, enfin, qu'on peut rien exclure. De facto, même si effectivement, notamment dans une perspective franco-franco-allemande, il paraît inimaginable hein, qu'il puisse y avoir un affrontement, en tous les cas, entre les deux pays-là, qui semblent, et on l'a vu aujourd'hui, hein, avec les images de Merkel et de Macron montant ensemble, côte à côte, vers l'Arc de Triomphe.
Ou encore cette très belle scène hier dans la clairière de Rotonde. Angela Merkel qui pose sa tête un instant sur les épaules de oui. c'était très beau, un peu comparable à la main dans la main de d'Helmut Kohl et de François Mitterrand à Verdun. C'était comparable,
mais ils ne pouvaient pas faire la même chose,
bien sûr,
faire la même chose. Enfin, c'était en tous les cas, on est vraiment dans la recherche d'une image, hein, d'une image qui frapperait encore les opinions publiques, et c'est évidemment très très difficile, hein, de répliquer, de renouveler une image aussi iconique, hein, que celle de 84. Ce que je voudrais juste dire encore, c'est qu'effectivement, et là je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit, qu'il ne faut pas du tout prendre les choses pour acquises.
Alors c'est vrai qu'il y a bien, mais évidemment, je parlais de la paix au sein de l'Union Européenne, mais il y a évidemment cette guerre tragique du démantèlement de l'Union de la Yougoslavie entre 1991 et 1999, environ 150 000 morts, considérable. Un conflit, on disait à l'époque, à 2 heures de vol de Paris ou de Londres, donc c'était effectivement une présence. On peut ici parler de la situation en Ukraine, de ce conflit qui n'ose pas vraiment dire son nom, mais il y a quand même des morts. Néanmoins, lorsqu'on est en Europe, peut-être un peu plus, et les Juliens en Union européenne. Est-il plus rassurant d'avoir 20 ans aujourd'hui que dans les années 30?
Mais encore une fois, on connaît la fin de l'histoire, alors je ne me risquerai pas à une réponse. Je voudrais juste dire que cette mise en garde...
C'est le problème avec les historiens, c'est que...
Allez, on n'est pas les devins, hein, on travaille sur ce qui s'est déjà passé. Ce souci du passé, il correspond à une recherche finalement de clés de lecture, de modèles explicatifs connus. Alors voilà, il est bien légitime de se tourner vers le passé. Cela dit, il faut se méfier un petit peu, puisque... De tout ce qu'on dit là, y compris ce qui s'est passé dans les Balkans récemment encore, on n'est pas dans une répétition de l'histoire. Non. Il peut y avoir certaines analogies, vous l'avez souligné, mais on est précisément dans l'héritage, dans le fruit de ce qui s'est passé depuis un siècle. Et donc de ce point de vue-là, on est plus dans la filiation que dans une reproduction de ce qui s'est passé. Et effectivement, l'histoire ne se répète pas. C'est bien parce que elle s'est produite que on a une évolution des contextes. Donc on a besoin d'histoire pour comprendre le présent, mais de là à songer à des répétitions, je pense que c'est pas tout à fait pertinent.
Alors évidemment, il existe des menaces, Christian Lequen, mais le terrorisme, l'extrémisme religieux, les cyberattaques qui pourraient déstabiliser un pays, une région, le réchauffement climatique, c'est pas tout à fait, avec évidemment un risque de migration accrue, la bulle financière qui est toujours au-dessus de nous, qui nous menace, c'est pas tout à fait la montée du nazisme en 1930, dans les années 30 et la prise de pouvoir d'Hitler en 1933.
Oui, moi je pense que effectivement, il faut pas comparer la situation du 21e siècle avec la situation du 20e. Il y a eu un très bon papier de Bernstein dans Le Monde d'ailleurs il y a quelques jours, et je souscris tout à fait à ce qui a été dit par notre collègue historien. Mais je trouve que la chose la plus inquiétante, si vous voulez, c'est la contestation de la démocratie libérale et de l'état de droit. Vous savez, autour du terrorisme, bien entendu, il y a des victimes, il y a des morts, mais on est quand même tous d'accord en Europe pour dire qu'il faut le combattre. En revanche, quand il s'agit des valeurs de l'accueil des immigrés, quand il s'agit de la question du droit de l'opposition, quand il s'agit
de l'équilibre des pouvoirs,
là on sent que il y a des lignes de fracture, et c'est une contradiction évidemment avec le contrat européen, puisque lorsque l'on souscrit à l'Union européenne, on souscrit aussi au respect de ses règles d'état de droit. Et là, il y a clairement des choses qui sont en train de se passer, en Hongrie en particulier, qui sont inquiétantes.
On est dans un paradoxe, à savoir que, évidemment, la construction européenne et la réconciliation franco-allemande qui ont été menées de pair nous ont donné ce grand moment de paix, 73 ans, et au sein même de l'Union européenne, ce qui a permis la construction et la réalisation de cette paix s'est remis en question par des pays qui ont adhéré à l'Union européenne.
Absolument, et qui ont une montée de populisme due à plein de choses. D'abord à leur trajectoire historique. Vous parliez de Trianon tout à l'heure. Monsieur Orban ne cesse d'instrumentaliser ce traité et de dire que la Hongrie a été une victime de l'histoire et qu'aujourd'hui, donc, il ne faut pas oublier les Hongrois qui sont dans les pays voisins, etc., etc. Il a d'ailleurs toute une propagande bien rodée à l'égard des Hongrois de Slovaquie, de Roumanie et de Serbie. Donc ça, c'est un point important. Et puis il y a cette opposition à ce qui est quand même un des grands acquis de la construction européenne, qui est l'ouverture des frontières et la fluidité et la libre circulation. Là, on sent que là-dessus, il y a une vraie ligne de clivage dans les sociétés, qui aujourd'hui a sa traduction politique, puisque les partis dits populistes, qu'ils soient alors plutôt d'extrême droite d'ailleurs que d'extrême gauche, sont opposés à l'ouverture des frontières.
Élie Julien, le traité de Trianon qu'évoquait à l'instant Christian Lequen, c'est 1920, c'est-à-dire il y a 98 ans. Donc comment on peut revenir sur le travail de mémoire n'a pas été fait en Hongrie, on a esquivé ce problème, alors que la réconciliation franco-allemande s'est faite. C'est la qualité des hommes politiques, qui fait que là, on va au-delà d'un moment historique délicat et qu'on arrive
Alors, gérer une défaite, commémorer une défaite, c'est toujours quelque chose de compliqué. Et ça, on le voit en Hongrie comme en Allemagne. Donc, ce traité de Trianon, il a généré des frustrations qui vraiment perdurent encore un siècle après. La relation franco-allemande, la réconciliation franco-allemande, elle date d'un après-guerre différent. Hein. Il a fallu encore une montée en puissance de l'horreur pour qu'on se dise, bon, désormais il va falloir s'y prendre autrement et qu'il y ait cette volonté politique qui se manifeste. Et on voit d'ailleurs que cette réconciliation franco-allemande, elle n'a pas hésité à s'appuyer sur l'héritage de la Première Guerre mondiale. Et c'est même un grand classique finalement, hein, qu'on pense à De Gaulle et Adenauer et leur halte à Reims, ou à la poignée de main qu'on évoquait tout à l'heure entre Mitterrand et Kohl à Verdun. Ça s'est poursuivi avec Sarkozy et Merkel à l'Arc de Triomphe en 2009, etc. Et on en a une séquence actuellement qui montre que finalement la réponse aux contestations qui viennent de pays de l'Union européenne, hein, notamment en Europe de l'Est, la réponse proposée actuellement par Macron, mais je pense que c'est aussi une réponse proposée en Allemagne, c'est la réaffirmation de ce couple franco-allemand. Donc on l'a vu au cours de l'itinérance mémorielle de Macron, qui a quand même commencé à Strasbourg avec le président Steinmeier, qui a terminé à Rotonde avec la chancelière Merkel. C'est Angela Merkel qui a ouvert le forum ici. Donc on voit, ils étaient au milieu des autres dirigeants tout à l'heure, entre Poutine et Trump respectivement. Donc on voit cette réaffirmation très très forte et qui va se prolonger, qui plus est, la semaine prochaine, puisqu'on aura les commémorations allemandes au Bundestag. Or, l'invité d'honneur sera Emmanuel Macron, qui tiendra un discours.
Christian Lequen, si l'Union européenne venait à disparaître, tout serait remis en cause ?
Bah oui, il faudrait réorganiser totalement nos relations avec des traités bilatéraux. Il faudrait faire ce que la Grande-Bretagne aura vraisemblablement à faire après le 29 mars prochain. Et nous perdrions aussi notre voix et donc notre puissance sur la scène internationale. Prenons un exemple qui est assez peu connu, mais c'est notre représentation commerciale. Quand on parle de négociations à l'Organisation mondiale du commerce, c'est l'Union européenne qui parle au nom des États. C'est pas le cas partout, hein. C'est pas le cas au Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais il y a comme ça des éléments de puissance collective que nous perdrions, bien entendu.
Oui. Et est-ce que si l'Union européenne venait à disparaître, cette notion de paix, si elle disparaissait évidemment, ce serait à cause d'une montée du nationalisme. François Mitterrand, le nationalisme, c'est la guerre.
Je me garderais bien de dire qu'immédiatement les Européens referaient la guerre entre eux. Non, les Européens sont aussi des sociétés qui ont évolué, et je ne trouve pas que les jeunes Européens soient très belliqueux dans l'ensemble, y compris d'ailleurs...
Ils sont peut-être un peu insouciants, non ?
Ils sont insouciants au sens où ils ont toujours connu la paix, bien entendu, toujours connu la démocratie. Et puis nous sommes dans une période un peu d'individualisme matérialiste. Voilà, donc les jeunes gens aujourd'hui, ce qu'ils veulent, c'est avant tout bien réussir leur vie professionnelle.
Alors nous sommes au Forum de la paix de Paris, où on essaye de cultiver à tous les temps, de conjuguer à tous les temps, tous les modes, le multilatéralisme. Ça sert à quoi un forum comme celui-ci, Arne Weinreich ? Ben, vous êtes très sceptique soudain. Oh là là,
Non, mais c'est effectivement là, le thème qui est au cœur même de ce forum. Hein. Donc là, on est dans la célébration. Enfin, là, toute cette séquence-là, de ce matin jusqu'à ce soir, c'est en fait une parenthèse qui commence donc par une commémoration évidemment des horreurs du passé, qu'on conclut donc par la célébration, si vous voulez, d'une des réponses apportées à la catastrophe, autant de la Première que de la Seconde Guerre mondiale. Hein, donc là, on est quand même, sur le plan de politique commémorative, on est dans un ensemble en fait assez cohérent, hein, avec cette idée, effectivement, qu'il faut que quelque chose de positif puisse être dégagé, puisse donc sortir de toute cette semaine quand même remplie de commémorations diverses et variées.
Donc ça sert à quelque chose.
Enfin, ça sert à quelque chose. Oui, mais en même temps, là, on est quand même, on a beaucoup dit les uns et les autres la stabilité donc du franco-allemand et des convictions européennes portées donc par les peuples européens. En même temps, je m'exprime beaucoup plus en tant que citoyen qu'en tant qu'historien. En même temps, il faut quand même qu'il y ait des avancées politiques majeures. majeur hein, qui puisse effectivement permettre de sauvegarder cet acquis de paix. Et là, justement, il est quand même permis de dire que juste dans le franco-allemand, tout ce qu'a fait, ce qu'a pu demander le président Macron n'a pas eu un accueil très, très fin.
C'est une autre émission.
Voilà.
C'est une autre émission
hein,
qu'on a déjà fait. On la refera d'ailleurs. Vraiment d'un mot, Christian.
Non, juste d'un mot. Je partage tout à fait ce qui a été dit sur l'importance du symbolisme franco-allemand pour Emmanuel Macron. Mais je crois que la réelle politique amène aussi Emmanuel Macron à se rendre compte que la relation avec l'Allemagne, ça ne suffit pas s'il veut faire bouger l'Europe. Et ça, c'est quand même un point très, très important qu'il faut souligner.
Merci à tous les trois, en tout cas, d'avoir été au Carrefour de l'Europe en direct du Forum de la Paix de Paris, avec la participation de Sacha Mitchell de Courrier International et la complicité de Léo Lefrançois, réalisation Guillaume Munier et Boris Vichich. Je voudrais dédier cette émission à Joanne Sutton et Pierre Billot, deux journalistes, un de RFI, l'autre de RTL, morts en Afghanistan en 2001. Ils étaient des amis, ils nous manquent beaucoup à RFI et RTL. On reste évidemment en contact via Facebook et Twitter. Daniel Desesquelles, où que vous soyez, à Paris, ailleurs en Europe, dans une Europe en paix, on l'espère, ou dans le reste du monde, pas trop belliqueux, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et tout de suite un nouveau journal qui va vous être présenté sur RFI, la radio de l'Europe et du monde, par Philippe Le Caplin.